Chaque samedi à 8h30, Radio Capi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Capi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
À la présentation de cette émission, J.R. Longuembo, et cette émission est supervisée par Nicole Ngaka. Assouvir la curiosité d'un enfant n'est pas une tâche aisée pour bon nombre des parents. Le désir de voir ou de savoir tout ce qui se passe figure parmi les traits caractéristiques des enfants curieux. Certains posent même des questions et entrent à l'intimité et à la reproduction. Comment se comporter face à la curiosité de l'enfant? Faut-il répondre à toutes les préoccupations de l'enfant? Nous avons notre invité pour répondre à toutes ces préoccupations en direct de notre studio de Mboujimaï, Isidore Bamanaï, éducateur à la vie. Bonjour.
Bonjour J.R., bonjour et merci pour avoir pensé à moi au début de cette année 2011. J'en profite comme vous l'avez fait, vous aussi tout à l'heure, là, présenter mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence à tous les auditeurs.
Voilà, Monsieur Bamanaï, quand faut-il commencer à parler ou mieux à expliquer tout à son enfant?
Merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, les enfants sont curieux et la curiosité se manifeste d'une manière générale vers les 3 ans. De l'enfant, il pose beaucoup de questions à ses parents, il veut connaître ça c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi les parents sortent, quand est-ce qu'ils rentrent. Je voudrais, avant de répondre à votre question, planter un peu le décor de ce que nous sommes, nous parents du Congo, et de comment souvent les parents réagissent devant les enfants qui posent des questions. Aujourd'hui au Congo, la plupart des parents quittent leur maison très tôt le matin, ils rentrent tard, particulièrement les hommes, ils rentrent tard, 19h, 20h, il est fatigué, quand il arrive, il a envie de manger, de se reposer, quand l'enfant s'approche pour lui poser l'une ou l'autre question, ou même pour lui raconter une petite histoire qui s'est passée dans le quartier, il présente qu'il est fatigué, qu'il n'a pas le temps de le suivre. C'est la mère qui s'y mêle aussi, qui dit à son fils, non, fiston, fais attention, papa est fatigué, laissez-le tranquille. Et souvent aussi dans notre société, c'était pas seulement les hommes. Aujourd'hui, même les femmes, à cause du gender et que nos femmes sont appelées à travailler dehors, ce qui est une très bonne chose, il reste aussi pendant longtemps, on a fini le service, on est allé à l'église, on est membre d'une association de femmes, on rentre à la maison tard, et bien parfois les enfants ne savent pas à qui poser des questions, c'est alors que les enfants commencent à apprendre des petites choses par eux-mêmes, ce qui est extrêmement grave parce que quand l'enfant apprend les choses par lui-même, il va apprendre n'importe quoi, quand les parents vont se réveiller pour commencer à corriger, ce sera un peu tard. Donc, je pense pour moi qu'il faut que les parents, vers l'âge questionnaire, l'âge de 3 ans, et aussi l'âge de... Il faut que les parents s'apprêtent à recevoir les questions des enfants et à répondre gentiment. Parce qu'après tout, quand l'enfant commence à poser des questions, cela manifeste l'éveil de son esprit, cela manifeste aussi l'éveil de sa personnalité. Et une dimension de la personnalité, c'est la dimension intellectuelle. Et la dimension intellectuelle ne sera nourrie que par des connaissances.
Oui, monsieur Isidore Bamanaï, parce que vous l'avez reconnu, autour de 3 ans, déjà l'enfant commence à être curieux, il veut tout savoir. Mais comment aborder le sujet des curiosités de l'enfant, si vous voulez, comment répondre à des questions concrètement?
Ah, merci, c'est ce qui embarque. Moi, je crois qu'il faut répondre à toutes les questions que les enfants posent. Il faut y réserver une réponse qui soit la plus, mais aussi avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant, parce que l'enfant ne pourra pas comprendre un langage trop scientifique. L'enfant ne pourra pas avoir tous les concepts à l'âge de 3 ans. Il faudra peut-être certaines choses les lui dire graduellement. Et attendre à un certain âge pour expliquer clairement ce qu'on n'avait pas expliqué avec beaucoup des mots au début de l'âge questionnaire.
Oui, parce que
de quelles questions les enfants posent.
Oui, parce que la curiosité est également liée au développement psychologique des enfants.
La curiosité est liée au développement psychologique de l'enfant, et que si l'enfant n'a pas reçu de connaissances auprès de ses parents, comme je le disais tout à l'heure, il va prendre sur la route, et sur la route, il apprend n'importe quoi, cela devient assez grave. L'enfant ramène des mots que les parents ne voudraient pas l'entendre sortir de sa bouche, et quand on commence à chercher à les corriger, ça devient peut-être un début de conflit, parfois inutile. Je crois que les parents doivent s'armer de leur patience. Enfants, quand l'enfant vient vers un parent, le parent lui répond gentiment qu'il peut attendre avec sa question, qui se répond. Au moment où il fait un signal, l'enfant arrive, il pose des questions. Le parent qui est déjà, parce qu'il connaît autant de choses de la vie, va choisir le mot qui convient pour pouvoir expliquer certaines notions à l'enfant qui veut comprendre. Environnement qui veut comprendre les principes des choses qui fonctionnent autour de lui.
Oui, M. Bamanaï, à quel âge commencer, par exemple, à parler aux plus petits d'éducation sexuelle, hein? Parce que nous savons que c'est le nœud du problème. Parfois, c'est ce qui divise même la famille, parce que l'enfant pose une question sur l'intimité, comment répondre à cette question. Donc, à quel âge d'abord commencer, par exemple, à parler aux plus petits d'éducation sexuelle et comment aborder les tels sujets?
Oui, merci JR. Je sais que quand on parle sexualité, beaucoup de parents sont embarrassés. Et chez nous, on se retire derrière la pudeur, ce qui est une bonne chose pour notre société. Mais écoutez, quand l'enfant veut savoir quelque chose, je crois, moi, qu'il faudra qu'on le lui explique. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir expliquer. Mais seulement, il faut expliquer à chaque âge avec des mots appropriés. À l'âge de 3 ans, dès que l'enfant a commencé à poser des questions, eh bien, il faudra qu'on lui dise. Écoutez, une fille peut, par exemple, dire, mais moi, quand j'urine, ce n'est pas comme tonton, ce n'est pas comme François. Et en ce moment-là, il faudra qu'on lui dise calmement que vous êtes une fille et que François est un garçon. Les organes qui sont pourvus dans nos corps sont différents, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
Oui.
Avec des mots appropriés et que pour que l'enfant puisse comprendre qu'il ne peut pas uriner de la même manière que celui qui a un organe différent du sien.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Composez le 081-869-63-77 pour les appels et réagir pour ce sujet que nous abordons avec notre invité Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, autour de la vie de famille, comment se comporter face à la curiosité des enfants. La course relais de la formation sportive sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dédélé Kabéan Galula, qui fonce vers le micro et le passe à Kamis Mukongo Tchambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage qui sont Nanambala sans. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tout le dimanche, à partir de 15h, heure de Kinshasa. Avant de mettre en ligne notre invité, notre auditeur, le tout premier auditeur de Okapi Service de cette année, hein, parce que c'est génial, le premier numéro de Okapi Service. Malonga, vous avez la chance d'être le premier auditeur qui tient à réagir autour de ce sujet. Bonjour Malonga.
Bonjour messieurs les gens.
Et nous rappelons que vous nous appelez de Bandundu. Quelle est votre réaction?
Oui, bon retour d'abord de service.
Bon. Merci.
Ok, ma réaction c'est ceci. L'invité vient de nous montrer les attitudes des enfants. Mais ici chez moi, j'ai mon enfant vraiment qui exagère avec des questions. Il demande ceci. Sans pour autant terminer encore, il demande encore. Est-ce que ces questions ou bien ces réponses que je lui donne, il conserve ça jusqu'à durant toutes les vies ou bien. Ou bien est-ce qu'un aspect seulement qui est momentané et il va oublier aussi ça? Parce que moi je commence aussi à ignorer certaines questions pour ne pas lui répondre. Donc qu'est-ce qu'on va, on peut s'afficher devant ce genre de questions à ses enfants?
Merci Malonga et nous profitons de faire un coucou, un clin d'œil à tous les habitants de Bandundu Île qui sont branchés sur la fréquence de la paix. Monsieur Bamanaï, vous avez suivi la réaction de Malonga, hein, parce que des fois il arrive à faire semblant, les questions qui lui sont posées par par des enfants. Voilà, donc est-ce que cette attitude, elle est la bonne?
Oui, merci beaucoup. Merci Malonga pour votre expérience que vous nous présentez là et qui nous aide à évoluer dans notre émission. Moi, je pense que, mon cher ami, vous n'avez pas à vous plaindre de votre enfant qui vous pose autant de questions, qui apprend à s'exprimer. C'est un enfant qui apprend à extérioriser ce qu'il a au fond de lui-même. Un enfant qui, plus tard, s'il a un problème, il viendra vers vous. Si chaque fois qu'il vient vers vous, vous avez l'attitude de l'accueillir calmement et vous avez des réponses à lui proposer. Faire abstraction, ne pas répondre à ces questions est vraiment à décourager. Même s'il le pose plusieurs fois, vous l'invitez au calme, je pense qu'il peut petit à petit apprendre à poser une question, attendre la réponse avant de poser une autre. Ça fait partie aussi de l'encadrement que vous lui offrez sur un enfant. Laissez votre enfant venir vers vous, qu'il vous pose toutes les questions qui lui passent par le cerveau, c'est à vous d'adapter vos réponses à son âge, de telle manière que l'enfant puisse trouver satisfaction auprès de vous. Tu vas grandir entre parents et enfants, parce qu'un enfant qui ne reçoit pas de réponses est frustré, et il va commencer à chercher à comprendre les choses de lui-même, ou même auprès des amis, et en ce moment-là, ce qu'il apprend auprès des amis n'est toujours pas sûr pour sa bonne éducation. Donc ce n'est pas un défaut, il faut plutôt l'encourager, mais aussi remettre un peu de l'ordre dans ce qu'il fait en l'invitant à poser des questions calmes. À laisser le temps à celui à qui on a posé la question de pouvoir répondre.
Nous avons également Guy Bin Tchova de Lubumbashi. Bonjour Guy.
Bonjour Mathieu.
Quelle est votre question?
Ok, j'ai salué aussi l'invité là, sur place.
Oui, je vous suis.
Oui. Je voulais juste lui demander, si vous avez un enfant, lui, bon, en fait, nous avons affaire à un enfant qui ne pose pas de questions. Est-ce qu'il y a des méthodes utilisées pour l'inciter ou le faire parvenir aussi, ou le stimuler aussi à poser des questions comme tous les autres enfants?
Ben, c'est vrai que nous, c'est pas le sujet à l'ordre du jour, hein. Parce que la timidité de l'enfant, nous l'avons déjà abordé, mais on peut tout de même y revenir. Parce que si nous parlons de la curiosité, un enfant qui est curieux, qui pose autant de questions la journée, donc parfois ça paraît être chiant, et ça décourage même certains parents, et même certains parents ont du mal à pouvoir répondre à toutes les questions, et disent, ben voilà, à cet âge, je ne peux pas, hein, ou je n'ai pas de mots juste pour répondre aux questions de l'enfant. Mais néanmoins, M. Bamanaï, qu'est-ce qu'on doit faire pour inciter, pour provoquer, aider les enfants qui ne parlent pas à poser quand même, à être comme les autres, à devenir aussi curieux?
Oui, merci beaucoup. Je crois que ce sont des cas rares. Je crois qu'il faut seulement l'exciter en lui posant lui-même des questions. Quand il regarde quelque chose à la télévision ou quand il voit un appareil, on peut lui poser la question « qu'est-ce que c'est ?» Il peut répondre. Peut-être que c'est un enfant, parfois certains enfants génies n'ont pas le temps de poser beaucoup de questions parce qu'ils comprennent de soi-même certaines choses assez facilement. Mais je crois que si cela inquiète un peu les parents, on peut les taquiner en lui posant lui-même des questions, de telle manière qu'on vérifie s'il connaît un peu certaines choses dans la maison. Et comme ça, peut-être, ça va provoquer aussi chez lui ce qu'il ne connaît pas.
Voilà, M. Bamanaï, mis à part la frustration, comme vous l'avez abordée, quelle est la conséquence logique d'une curiosité restée insatisfaite ou des questions sans réponse, hein? Quelle est notre conséquence en fait en découler?
Ah, merci beaucoup. Je crois que un enfant qui n'a pas reçu de réponse correcte à ce qu'il veut savoir, il n'aura pas acquis des connaissances. Des connaissances justes qui puissent aider sa personnalité à s'éclore et qu'il puisse aussi l'aider à pouvoir se confirmer auprès d'autres enfants. Ce sera un enfant qui est tout le temps déçu, qui auprès des autres il se sent inférieur, parce que quand les autres parlent, de ce qu'ils voient chez eux, de ce qu'ils ont entendu leurs parents donner comme réponse devant l'une ou l'autre chose, lui, il sera vraiment désorienté, il sera déboussolé, et il va petit à petit commencer à se poser la question de savoir pourquoi chez lui on ne lui répond pas aux questions, il n'a pas autant de connaissances, et le complexe d'infériorité risque de s'installer, et quand il y a complexe d'infériorité, on bascule facilement vers la personnalité faible. Et quand on a une personnalité faible, on ne rend pas beaucoup de services à la nation, c'est ce qui arrive souvent dans nos sociétés, si on ne connaît pas, on a un peu honte quoi, pour ouvrir sa bouche et pour dire quelque chose, parce qu'on se dit, ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est que ça correspond exactement à la réalité.
Et M. Bamanaï, les professionnels de la petite enfance prônent généralement pour la tolérance des parents. Qu'en est-il au juste?
Oui, je crois qu'il faut que les parents soient tolérants envers les enfants. Si les parents ne sont pas tolérants, il va se créer un fossé entre eux deux. Et plus tard, quand l'enfant sera adolescent et qu'il voit des choses apparaître sur son corps, il ne pourra plus ouvrir sa bouche pour poser la question aux parents. Et quand il y a un fossé entre les deux, on ne se connaît pas assez, on n'a pas l'occasion de connaître son enfant, on n'a pas l'occasion de savoir ce qu'il pense sur l'une ou l'autre chose, et l'éduquer, ça devient un peu difficile. Je crois que les parents doivent être tolérants, surtout à l'âge où l'enfant commence à poser des questions. Les parents devraient même s'estimer heureux d'avoir un enfant curieux qui veut apprendre, qui veut connaître le monde dans lequel il tourne. Je crois qu'ils doivent être tolérants. Ils doivent même avoir un moment où les enfants sont habitués à se dire et à cette heure-là, que nos parents sont disposés à écouter nos questions et à nous donner des réponses justes. Si les parents sont tolérants, je crois que ça va augmenter un peu plus l'affection entre eux et les enfants. Les enfants vont les estimer à leur juste valeur. Ils vont leur faire confiance parce que vous savez, pour les enfants, ce sont les parents qui connaissent tout. Ce sont les parents qui sont les plus riches, ce sont les parents qui sont les plus pauvres, les plus riches, qui sont les plus forts. Et si les parents, ils sont impatients, ils ont envie d'aller tout de suite se coucher, je crois qu'ils laissent derrière eux autant de choses qu'ils pouvaient exploiter pour créer une harmonie dans la famille et aider les enfants à pouvoir croître normalement.
Vous venez à peine de nous rejoindre. Bienvenue à Okapi Service. Votre magazine se poursuit et nous vous rappelons notre numéro de contact. C'est le 081 890 63 77 pour les appels.
Les professionnels de médias s'expriment sur les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. C'est dans la tribune de la presse un rendez-vous de débat politique sur Radio Okapi avec le chevalier de la plume des médias congolais. Suivez la tribune de la presse chaque vendredi de 19h15 à 20h, heure de Kinshasa. Et pour vous animer ce débat, je suis là, moi c'est Kéline Koutou.
Joseph Ndjoubou, vous nous appelez de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus, forcément.
Et c'est plutôt J.R. Lungembo.
J.R. Lungembo.
Voilà, votre question?
Ma question est la suivante. D'abord, mon nom est Joseph Ndjoubou, nous tout pour la précision. Je suis dans la ville de Kananga, précisément. Ma question est la suivante. À notre JT du jour, dans notre belle émission au Parti Service. Qui doit éduquer l'enfant de féliciter?
Voilà, donc c'est une question qui doit éduquer l'enfant. Ben, alors nous parlons de la curiosité de l'enfant en ce moment. Ben, peut-être pour orienter ça autrement, monsieur l'invité, entre le parent, donc le papa et maman, qui est habilité à répondre aux questions, à la curiosité, aux questions de curiosité des enfants.
Oui, merci Joseph. J'espère que quand vous vous appelez Zboamoutoutou, ce n'est pas les coups autour de vous, ce ne sont pas des gifles envers vos enfants. Mais moi, je pense que tous les deux parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Et le père et la mère. Et pour cela, j'estime que les deux doivent avoir un bagage suffisant qui puisse apporter aux enfants les réponses aux questions que les enfants posent et des réponses justes. Souvent, parfois, les parents trompent les enfants, surtout quand il s'agit des questions liées à la sexualité.
Si la question est adressée à la mère devra avoir un bagage pour pouvoir répondre. S'il ne sait pas répondre, je crois qu'elle elle sera suffisamment humble pour dire à l'enfant, je vais attendre un peu, je vais y réfléchir et puis je vais te répondre. C'est une façon pour elle peut-être de se référer à son mari, si elle estime que son mari est plus avisé dans ce domaine-là. Hein? Donc, il n'y a pas de limite. Les deux sont chargés de l'éducation des enfants et ils doivent collaborer pour mettre ensemble leurs expériences et les questions que les enfants posent. Ils peuvent réfléchir ensemble pour se dire comment avoir une attitude devant tel enfant. Et il faut que les enfants trouvent que l'attitude reste presque la même et chez le père et chez la mère. Sinon, s'il y a des différences, et si les enfants se rendent compte que quand ils posent des questions à leur père, celui-là, il les répond, quand ils vont vers leur mère, la mère les renvoie, ça va créer une certaine estimation différente entre les deux, et je crois que les enfants auront une image d'une société où il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Je crois que les deux parents se complètent,
ils sont concernés.
Et se relayent. Ils doivent tous les deux s'occuper de l'éducation de leurs enfants.
Docteur Paulin Moulouaï nous appelle de Lumbashi. Bonjour docteur.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi je me redemandais à Papa Isidore avec les questions concernant la sexualité que les petits avoir quand même. Mais pour les grands enfants de 11 à 12 ans, ça pose problème, il y a un problème de tabou dans certains tribus.
Voilà, Papa Isidore, le problème des tabous constitue quand même un barrage, un mur qui empêche quand même le dialogue entre un enfant autour de cet âge-là, 11 ans, 12 ans, ça devient un peu compliqué, hein, parce que même la curiosité de l'enfant à cet âge pose problème.
Oui, merci docteur Paulin. Oui, je crois que en regardant dans notre culture, il y a des tabous, c'est vrai, mais nous, éducateurs à la vie, nous pensons que il y a une certaine manière d'aborder les questions sexuelles avec les enfants sans tout le temps blesser la pudeur. Si vous avez une fille de 11 ans qui bientôt la va avoir la menstruation, qui peut l'encadrer dans ce domaine-là? Je crois que pour les filles, c'est plus facile. Elle peut poser la question à sa mère. Mais si un garçon qui a 12 ans va avoir son phénomène d'émission involontaire de sperme, de qui est-ce qu'il aura la réponse exacte au phénomène qui lui est arrivé? Si entre lui, à cause des tabous, entre lui et son père, il y a un fossé, s'il n'a même pas le courage de poser cette question à sa mère, pour lui dire, mais écoute, ce matin, je vois que j'ai mouillé ma culotte, et je ne sais pas ce que c'est. Et si on ne sait pas lui donner une réponse appropriée et adaptée à son niveau, ben, il va se référer à ses amis. Et ce que les amis racontent généralement dans ce genre de questions, nous qui sommes sur terrain, pousse facilement les jeunes garçons à commencer à tournoyer autour des jeunes filles. Et cela crée une mésentente terrible entre l'enfant et ses parents. Moi, je crois, docteur, qu'il y a moyen d'utiliser les termes propres pour rendre à l'enfant ce qu'il veut savoir. En ce moment-là, je crois qu'on contourne un peu la question des tabous et on répond à l'enfant en lui donnant des connaissances dont il a besoin et en l'armant aussi des valeurs humaines qui peuvent l'aider à réagir devant l'une ou l'autre sollicitation dans la société.
Voilà, monsieur Bamanaï, nous allons clore cet entretien, donc nous allons nous arrêter là. Mais juste une dernière question qui a deux volets. Semble-t-il que la curiosité de l'enfant, la curiosité et l'envie de savoir varient d'un enfant à l'autre. Et de l'autre côté, on parle il y a des enfants qui sont plus avides de connaissances et posent des questions parfois déroutantes sur leur jeune âge. Voilà donc comment se prendre face à cette situation-là.
Bon, merci beaucoup. Quand vous dites question déroutante, s'il y avait un exemple, on pouvait s'attarder à commencer à chercher comment on peut se débrouiller. Mais s'il n'y a pas un exemple, moi je veux seulement dire que s'il y a une question déroutante à laquelle le père ou la mère n'a pas une réponse tout de suite, je crois qu'il est plus juste pédagogiquement parlant de dire à l'enfant, merci pour la question, mais présentement là, je n'ai pas une réponse exacte à te donner. Donne-moi un petit moment, je vais me documenter, je vais rechercher auprès d'autres amis. Quand j'aurai une idée, je pourrai alors répondre à la question. Et quand on aura une idée, on devra alors appeler l'enfant et lui dire, voilà, à la question là, j'ai trouvé qu'il faut une telle réponse, une telle réponse. Donc, si la question est déroutante, sauf si on n'a pas de mots que l'on peut utiliser pour rendre la réponse qu'on veut donner à l'enfant. Parce que certains parents considèrent que les enfants veulent tout savoir jusqu'au détail de ce qu'ils pensent. Nous restons sur la peur. Et quand nous restons sur la peur n'éduque pas. Quand nous restons sur la peur, on croit que l'enfant a posé cette question pour avoir telle réponse. Comme nous la connaissons et comme nous la vivons, je crois qu'il y a moyen de faire un décalage entre les deux, entre la question de l'enfant et la réponse qu'on peut lui donner compte tenu de son âge. Je crois que toute la frustration vient de là. Même si sur le plan sexuel, par exemple, l'enfant pose la question et voit sa mère enceinte, l'enfant pose la question de savoir, mais maman, comment ton ventre est si gonflé? Je crois qu'on doit calmement lui dire, c'est ton petit frère ou ta petite sœur qui est là-dedans. Mais les parents croient que tout de suite une autre question va venir pour dire, mais comment il est entré dans ton ventre? C'est là alors qu'on est embarrassé. Et ben, si on pose cette question, je crois qu'il y a lieu d'évoquer la notion de Dieu qui donne des enfants aux parents. Donc il y a autant de choses qu'on peut dire à l'enfant qui puisse calmer son envie de connaître, de telle manière que quand on a même parlé de Dieu, on n'a pas trompé l'enfant. C'est vrai qu'à travers nous, Dieu continue à créer, donc on n'a pas trompé l'enfant, mais au moins on lui a dit quelque chose qu'il peut assimiler et qu'il peut comprendre facilement.
Merci.
Je me répète en disant, si on n'a pas une réponse tout de suite, on devra faire attendre à l'enfant, et quand on aura la réponse, on va la lui communiquer calmement.
Merci Isidore Bamanaï, et nous rappelons que vous êtes éducateur à la vie. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être le premier invité de ce premier numéro de l'année. On vous retrouve très prochainement.
Merci, ça a été un honneur pour moi. Merci beaucoup.